Venez, venez, entrez. Le Judaïka Culture Club a ouvert ses portes comme tous les lundis à 18h30. Et notre but, eh bien, il est toujours le même, c'est de vous faire sortir de chez vous pour assister à des spectacles vivants. Oui, oui, même quand il fait froid, même s'il y a un peu de neige. Il faut sortir, il faut soutenir les acteurs et tout. Voilà, tous ces spectacles, parce que vraiment, on a de nouveau un programme exceptionnel. Je suis toujours fière de mes invités, mais aujourd'hui, encore plus particulièrement que d'habitude. Alors, nous attendons Christine Delmotte-Weber, qui devrait pas tarder pour « Ceci n'est pas un rêve ». C'est avec Geneviève Dama, d'ailleurs, une des autrices qui est contemporaine, qui est la plus jouée. Non ? Il y a un nom ?
Non, je ne joue pas dans le spectacle.
Je sais, mais elle non plus.
Ah, donc, voilà, oui, pardon.
Je suis... jouée. Je sais.
Voilà, oui.
Les deux, vous êtes... voilà, on vous...
Oui, mais on est super contentes d'être ici.
Hein ? Voilà. Et donc, vous avez entendu Geneviève Dama. Ah ben voilà, Christine est juste à la porte, juste à temps. On aura en ligne aussi Jean-Luc Pirot pour Au bout des planches. Il commence demain, il est en pleine dernière répétition, donc c'était un petit peu difficile de l'enlever de ses planches. Et puis, eh bien, nous accueillons aussi pour la première fois Lionel Liégeois et Aurélie Chenet. Bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, et après avoir entendu toutes ces dames et ce monsieur plein d'expérience, vous allez nous expliquer un petit peu vos expériences et ce qui vous a conduit à écrire ce spectacle d'un titre très étrange. Mais c'est quoi ton vrai métier? Et vous n'allez pas nous parler de boulanger?
Non. On va vous parler, bah oui, de notre métier de comédien et comédienne en Belgique. Donc voilà, on va vous parler un peu de nous.
Voilà, des avantages, des inconvénients, des petits problèmes peut-être
de temps en temps, voilà, mais aussi en effet des belles facettes aussi.
Exactement.
Du métier.
Mais peut-être de tout ce qu'on vous raconte pas à l'école en fait, quand vous allez à l'école entre guillemets pour être acteur, on vous dit peut-être pas tout ça.
Non, c'est vrai qu'on découvre beaucoup de choses après sur le terrain, hein, on va voilà. Dire, c'est là
c'est,
qu'on...
c'est, honnêtement, c'est le cas pour beaucoup de métiers finalement, hein. Mais en tout cas, c'est intéressant. Hein. Et vous aurez ici deux spécialistes qui vont pouvoir vous donner encore plus d'informations sur comment ça se passe après. Hein, parce qu'il y a comment c'est les acteurs débutants et puis comment c'est pour après et comment on fait pour durer aussi. Hein. C'est,
oui.
C'est quand même... Bonsoir, Christine.
Bonsoir à vous.
Heureuse d'être là. Je demande souvent au début de cette émission, mais en fait, à quoi ça sert le théâtre ? Alors, ça sert à plein de choses et on va en parler tout au long de la soirée. Mais je voulais aussi vous parler d'une pièce qui peut servir à changer les mentalités et dont donc Radio Judaïka est l'instigatrice. Donc, vous allez avoir l'occasion de venir voir Inconnu à cette adresse. Vous connaissez ?
Quelqu'un, oui, le Cressman Taylor.
Voilà, c'est ça. Le 1er février au Centre culturel Ducle. Donc, c'est organisé par Radio Judaïka. Je vois qu'il y a des oui et qu'il y a des non. Alors, c'est très, très intéressant. C'est un échange épistolaire entre 32 et 34. Donc, c'est le début du nazisme, mais ce n'est pas encore la guerre. Entre deux amis, un juif et un non-juif. Vraiment meilleurs amis qui travaillent ensemble, qui ont une affaire ensemble. Et puis, il y en a un qui reste aux États-Unis et l'autre qui revient en Allemagne. Ce sont des Allemands. Et puis, ils vont s'écrire. Et au début, c'est très anodin. On a bien vendu, je t'envoie l'argent, etc. Et puis, petit à petit, bah, celui qui reste en Allemagne va peut-être un peu changer d'avis, va être un peu, comment on va dire, pris par l'ambiance générale. Et puis, il va finir par demander à l'autre de plus lui écrire. Et puis voilà, je ne vous raconte pas la fin, mais moi, je dirais que c'est la preuve de la puissance d'une lettre, non ? Tout ce qu'on peut faire avec une lettre. Et donc, si vous venez voir ce spectacle, vous verrez tout ce qu'on peut faire avec une pièce de théâtre. C'est... Non, mais c'est vrai, c'est vraiment comme ça que moi, je vois les choses. C'était au départ un livre qui a eu énormément de succès, qui a commencé première parution en 38, qui a tout de suite été un grand succès, et puis qui a été réédité. Et à chaque fois, ça marche. C'est franchement un petit bijou.
Oui, c'est d'une concision, mais c'est relativement implacable et c'est quand même hyper violent parce que avant d'arriver à la dernière lettre, il y en a beaucoup d'autres.
Exactement.
Qui...
Exactement. Voilà. J'ai peut-être sauté trop vite à la fin sans raconter.
Non,
la
c'est
fin,
très bien parce que sinon.
Chaque lettre est puissante en fait.
Oui, oui.
Chaque mot de chaque lettre est puissant. Et voilà, et même si c'est pas très, il y a pas beaucoup de mouvements, il y a pas trop de décors, mais en tout cas on ne ressort pas indemne et on réfléchit à tout ce qu'on écrit aussi. Enfin bon, voilà. Donc 1er février au Centre culturel Duc. Pour les réservations, vous allez sur le site de Radio Judaïka et puis comme ça on se verra une fois en vrai, on sera tous ensemble. Voilà à quoi se peut aussi servir le théâtre. Alors pour répéter tout ce qu'on a en face de la autour de la table, parce que presque tout le monde est arrivé, donc on a Christine Delmotte Weber, bonsoir et merci d'être là.
Bonsoir.
Parce que c'était un jour aussi de répétition.
Oui, voilà, on est dans la dernière ligne droite de
c'est
la
ça, pour un
reprise.
Spectacle, donc ceci n'est pas un rêve qui va commencer le 17 janvier, donc c'est la semaine prochaine.
Oui, c'est ça.
Voilà. On aura, alors on a Geneviève Dama qui est l'autrice.
Oui. Oui, on peut dire.
D'accord. non, mais chacun a...
Oui, on peut dire auteur, autrice.
Enfin, l'autrice.
Moi, je dis autrice, mais bon.
Voilà. De Perfect Day. Alors, vous n'avez pas attaqué le film qui a pris le nom de votre pièce. C'est quand même incroyable.
Je crois que c'est pas au pluriel, Perfect Days, je me demande. Je crois qu'il est au pluriel. Non, je ne me permettrai pas d'attaquer. Parce qu'il y a la chanson de Lou Reed aussi. Avant, qui est Perfect Day, donc je pense...
Ouais. Voilà, et là c'est donc au Théâtre de la Valette pour une fin de tournée, est-ce que ça continue à tourner ce spectacle merveilleux ?
Ça va tourner encore l'année prochaine, je pense, donc c'est pas fini. Mais je pense que c'est la fin de la tournée pour cette saison, mais si Hélène parvient à nous rejoindre, puisqu'elle est en répétition, elle précisera ça mieux que moi.
Exactement, donc elle commence le 11, donc elle était aussi en répétition, elle m'a dit je vais essayer, donc on va voir si à la fin on va pouvoir la voir. Donc ça aussi, prenez des notes, hein, comment on écrit une pièce qui fait des tournées pendant des années, qui a des prix et qui tout ça. On va téléphoner à Jean-Luc Pirot, qui est aussi un des piliers de la comédie et de la comédie tragique. Donc c'est bon, il va nous parler de son style. Au bout des planches, où un de ses titres c'est « Y a-t-il une vie avant la mort ?» Donc voilà. C'est assez intéressant. Et lui, il commence demain. Donc, vraiment, on va l'attraper au vol. Et puis, donc, nos deux petits jeunes, entre guillemets. Hein. Donc,
ça faisait longtemps qu'on nous avait plus dit ça. Ça fait plaisir.
On est toujours le jeune de quelqu'un.
Oui, c'est chouette. Ça fait du bien. Oui. On est content d'être venu.
Ah oui, déjà ça.
Mais c'est quoi ton vrai métier ? Entre autres, au Fou Rire le 22 janvier. Et vous nous direz un peu les autres dates, parce que j'ai vu que... C'est un spectacle qui voyage. Et on va commencer par rêver. Est-ce qu'on est d'accord de rêver ? Rêvons ensemble. Et donc, qui rêve dans ce spectacle ?
Alors, il y a trois actrices, en fait. Il y a Stéphanie Blanchoux, Stéphanie Van Vive et Anna Rodriguez.
Alors, Stéphanie Blanchoux, on l'a reçue ici pour l'histoire de la girafe.
Oui, c'est ça. Bébé girafe, tout à fait. Oui, Stéphanie, elle a beaucoup joué aussi. C'est... Pour les auditeurs, auditrices, elle a joué dans Ennemi Public.
Exactement.
Aussi, elle est très connue grâce
aussi.
À ça. Elle écrit beaucoup, c'est une autrice aussi pour différents
chante.
Auteurs. Elle chante tout aussi, à fait, voilà, donc elle est une grande actrice, donc c'est quelqu'un très très bien. Stéphanie Van Vive aussi, grande actrice, qui a fait beaucoup de cinéma, beaucoup. Enfin, c'est trois vraiment filles, actrices formidables. Et donc, ceci n'est pas un rêve. Stéphanie Van Vive et Anna Rodriguez jouent deux peintresses.
C'est la première fois que je le vois.
Mais ça existait, alors c'est vrai que c'est bizarre, je vous dis peinteresse pour ne pas non plus...
Disons que c'est revendicatif, quand on dit peinteresse...
Peinteresse, oui, c'est ça. Mais enfin, comme le spectacle parle un petit peu de ça, ça me paraît normal de mettre ça en avant. Et en fait, c'est deux peinteresses qui étaient formidables, avec des peintures formidables, mais qui, au moment du surréalisme, n'ont pas été reconnues à leur juste valeur, parce que je pense qu'à l'époque, le milieu patriarcal était beaucoup trop fort et que elles étaient acceptées dans le milieu surréaliste un petit peu comme muse ou comme compagne d'eux, mais pas tout à fait à leur juste place comme femme et comme artiste, hein, ça clairement. Et donc, quelqu'un comme Léonore Fini, qui avait un sacré caractère, qui est devenu d'ailleurs relativement connu, je sais pas si vous connaissez Léonore Fini.
Oui, c'est bien.
Elle a bien rué dans les brancards, elle a d'ailleurs quitté le mouvement surréaliste par rapport à cela. Et en fait, l'histoire raconte une rencontre à Saint-Martin-d'Ardèche en 1939 entre ces deux peintresses. Et Léonora Carrington, grande peintre aussi, elle faisait partie du mouvement surréaliste, était la compagne de Max Ernst, allemand. Et c'est toute une histoire où, justement, ils se sont réfugiés là-bas en Ardèche pour essayer d'échapper à la guerre, d'échapper aux nazis qui descendaient, qui commençaient à... voilà,
à faire le tri dans les œuvres d'art aussi.
À faire le tri dans les œuvres d'art. Max Ernst, qui n'était pas juif, mais avec un fui l'Allemagne dès que Hitler avait accédé au pouvoir. Et enfin, c'est une histoire entre les deux où il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'amitié, beaucoup de sensualité, mais aussi de la concurrence entre ces deux femmes par rapport à, peut-être à, par rapport à Max Ernst, etc. Donc, il y a, enfin, c'est deux très beaux rôles pour ces deux actrices. Et on voit ça à travers l'œil de Alice, qui est donc cette photographe contemporaine jouée par Stéphanie Blanchon. Et Alice, donc, qui est photographe de guerre, ne veut plus subir ça, ne veut plus vivre cela, et décide de plonger dans cette histoire parce qu'elle a envie de replonger dans une forme de créativité, de recréer des images, de recréer à partir de ces photos autre chose que des images violentes. Donc de replonger dans la créativité, de replonger dans la poésie. Et grâce à ces deux peintresses, à travers des rêves, leurs histoires vont se tisser ensemble. Et donc c'est le tissage de ces deux histoires entre cette Alice, cette photographe, et ces deux peintresses. C'est cette histoire qui est racontée.
Donc, c'est deux personnages qui ont vraiment existé et une Alice qui a été.
Voilà.
Qui a été.
Qui est un personnage contemporain inventé.
C'est ça.
Voilà. Voilà. C'est deux personnages qui ont vraiment existé et un personnage qui a tout à fait exactement.
Et comment vous êtes arrivé à écrire cette histoire?
D'abord, cette histoire, en fait, à Saint-Martin-d'Ardèche, pour les gens qui connaissent un petit peu le sud de la France, c'est l'Ardèche. C'est un endroit que je connais moi personnellement très très bien. Donc, c'est une maison qu'on m'a fait visiter. À Saint-Martin-d'Ardèche, il y a encore cette maison cohabitée, Leonora Carrington, Max Ernst, etc. Puisque Max Ernst et Leonora avaient construit des grandes sculptures à l'extérieur. Donc c'est encore une maison assez impressionnante qui est visitable, je dirais, dans le village.
Les sculptures sont encore là.
Les sculptures sont encore là. Et moi, j'ai entendu cette histoire, je me suis dit, mais c'est extraordinaire. Donc à côté de chez moi, où je vis régulièrement, il y a cette maison donc, où ont été vécues toutes ces histoires entre... Donc j'ai lu beaucoup sur Leonora Fini, sur Leonora Carrington. Les propriétaires de la maison avaient entendu parler d'histoires, m'ont nous raconté des bribes à partir de on dit du lieu, etc. Donc j'ai creusé moi-même. Donc beaucoup de ce que je raconte est relativement vrai, puisque Max Ernst, par exemple, a été emmené au camp des Milles à un moment donné, qui était un camp de prisonniers allemands. Enfin, il y a des tas de détails qui sont vrais. Ce que j'ai évidemment totalement réinventé, c'est la relation entre ces deux femmes peintres et leur amitié, leur rivalité potentielle, puis leur sensualité, tout ça, j'ai réinventé dans ce... Voilà. Mais donc, ça m'intéressait, c'est en ça aussi quand on écrit, enfin, je pense que tous les gens qui écrivent ont toujours une part de soi. Et c'était une manière pour moi aussi de replonger, j'imagine une époque peut-être plus difficile que ce que je sais, de replonger dans du surréalisme, de replonger dans la créativité, de replonger là-dedans.
Est-ce que sur scène, on voit des tableaux, on voit des choses?
Et donc, on voit différents tableaux des deux peintresses qui sont chaque fois mis en valeur par les deux actrices, soit via des toiles, soit via des reconstitutions.
Qu'est-ce qu'elles ont peint?
Elles ont peint beaucoup de choses surréalistes, effectivement. Beaucoup d'autoportraits, les deux. Beaucoup, du côté de Leonora Fini, beaucoup de femmes comme ça avec des armures, avec beaucoup de chats par exemple. Elle est très connue, Leonora Fini, pour ses chats. Enfin, du côté de Leonora Carrington, qui au niveau de la peinture, je préfère vraiment, là il y a tout un univers chamanique, mystique, tout à fait inventif comme ça, avec un bestiaire imaginaire, avec des couleurs flamboyantes, avec et là, c'est très, très inventif. Et Leonora Carrington a fini sa vie au Mexique après la guerre, en 1942. Elle est allée au Mexique. Et là, elle a fait une très, très belle carrière. Elle est très reconnue au Mexique, en fait. Et un peu moins en Europe.
Vous allez faire monter la cote de ces deux actrices.
En tout cas, c'est une manière de leur rendre hommage, d'être avec elles, puis de les faire apprécier, puis de dire aussi qu'effectivement, ces femmes ont existé, qu'elles n'ont pas eu... À l'époque, la chance qu'elles auraient pu avoir si elles étaient des hommes.
Et actuellement, elles ont une cote élevée.
Alors du coup,
Leonora Fini, je pense. Oui, moi je l'ai vu exploser plusieurs fois. Ouais. Ouais. Vraiment dans.
Oui, Leonora Fini est vraiment pour moi très connue. Leonora Carrington, mais moi j'avais lu ses nouvelles de Leonora Carrington, c'est comme ça que je l'ai connue. Oui. Et donc par hasard, je la connaissais même relativement bien. J'avais un petit peu vu ses tableaux et remonter la côte, je ne sais pas, mais en tout cas, je les vois régulièrement dans des musées.
D'accord.
Et chaque fois, je m'extasie tellement.
Je pense que l'histoire maintenant remet plus à l'honneur les figures féminines de ces époques qui ont été
un peu oubliées.
Bah oui, totalement.
Comme Dora Maar,
totalement, voilà. C'est la même époque, Dora Maar, etc. Beaucoup plus. Alors qu'à l'époque, c'était un petit peu de côté, un petit peu les muses. Et quelqu'un comme André Breton était par rapport à ça très critique et très... macho. Était un peu macho et un peu condescendant. C'est ça. Voilà, il était condescendant. Donc,
Ça se joue du 17 janvier au 14 février à la Comédie Au 4 février à la Comédie Claude Voltaire.
Voilà.
Donc, c'est bien, c'est 3 semaines.
Oui, c'est 3 semaines. On est vraiment content de reprendre le spectacle. C'est un spectacle qui était joué en mai 2022. C'est ça. C'était la fin du confinement. C'est ça. Donc, c'était encore le moment où, voilà. Donc, on est vraiment enchantés de reprendre 3 semaines. C'est un très bel espace, la Comédie Club. C'est un très beau plateau. Ah, oui. Ça convient parfaitement au spectacle. Donc, on est, voilà.
Très bien. Et alors, dans les inspirations, alors, est-ce que Geneviève a déjà écrit quelque chose sur base de faits réels, de personnages réels, ou c'est toujours de la fiction?
Oui, c'est souvent la fiction, sauf hors-jeu, où il y a quand même beaucoup de réel. Ah, oui. Il y a beaucoup de réel. Oui, sinon, je pense que j'ai... Oui, c'est toujours la fiction. Je trouve ça très courageux, parce que je trouve qu'il faut travailler vraiment la vraisemblance. Enfin, voilà, c'est parvenir à trouver sa liberté dans un cadre...
En même temps, c'est pas comme si on écrivait sur, je sais pas, Molière. On connaît pas tout, donc ça, on peut se permettre des libertés, parce que... Le spectateur ne va pas chicaner sur des détails de réalité, quoi.
Mais la responsabilité est grande, je pense, avec ces femmes. Et oui, donc, je trouve que c'est beau. Enfin, voilà, mais...
Alors, qu'est-ce qu'on écoute comme musique ?
Alors, moi, j'avais proposé La Java Bleue, simplement parce que c'est une chanson qui est dans le spectacle, évidemment, puis qui a été créée en 1939. Et c'était un moment comme ça de grand bonheur avant la catastrophe de 40.
C'est ça. Après les lettres, les échanges.
Voilà,
c'est
ça.
La java la plus belle, celle qui en sorcelle, quand on la danse les yeux dans les yeux, au rythme joyeux. Quand les corps se confondent, comme est au monde, il n'y en a pas deux, c'est la java bleue. Il est au bal musette, un air rempli de douceur, qui fait tourner les têtes, qui fait chavirer les cœurs. Quand on la danse à petits pas, serrant celle qu'on aime dans ses bras, on les murmure dans un frisson, en écoutant chanter l'accordéon, c'est la java bleue, la java la plus belle, celle qui...
Allô?
Oui, allô?
Ah, bonsoir Jean-Luc.
Bonsoir.
Bonsoir.
On a Natacha Belova aussi. Bonsoir. Très très heureux de vous avoir tous les deux. Alors je vais vous dire qui vous écoute ici en studio. Je pense qu'il y a des gens que vous connaissez. Il y a Christine Delmotte-Weber.
Oh, bonjour Christine.
Natacha, bonjour Natacha.
Voilà, on a Geneviève Dama.
Bonjour.
Oh, bonjour.
Ce sont les retrouvailles. Et puis Lionel Liégeois et Aurélie Frenet, peut-être que vous ne les connaissez pas encore, mais voilà, il faut aller voir leur spectacle. Mais c'est quoi ton métier ? Et puis ton vrai métier, pardon. Et puis vous les connaîtrez. Alors Jean-Luc et Natacha, donc au bout des planches, qui commence donc demain. Moi, je viens vous voir demain. Vous serez prêts ?
Oui, bienvenue. Bienvenue. Oh, non, on n'est jamais prêts, mais on est prêts.
D'accord. Donc, j'ai retenu une phrase dans votre présentation, c'est « Mais y a-t-il une vie avant la mort ?» C'est bien ça ?
Oui.
Et comment on peut...
Et une vie après, une vie pendant.
Ah, tout ça. Oui. Et tout ça en 1 h 05 minutes, c'est ça ?
Oui, c'est ça.
Alors, de quoi parle ce spectacle, si on peut résumer ?
Mais ça parle des premières fois, des dernières fois, et puis aussi de l'envie peut-être de préparer la dernière fois. Mais le seul problème, et grand problème, c'est qu'évidemment, on ne sait pas quand c'est la dernière fois. Voilà, en gros, c'est ça. C'est parler aussi de qui on aurait envie d'inviter. Et en fait, on a envie d'inviter tout le monde. Et alors, est-ce que c'est possible ? Voilà, il y a beaucoup d'impossibilités dedans, mais c'est de ça que ça parle.
Bon, mais c'est toujours, avec vous, tragicomique.
Ben oui, j'espère en tout cas que on a fait des essais publics et le rire s'invite, et donc ça, on est ravis qu'il s'invite. Oui.
Et qu'est-ce que la mise en scène de Natacha a apporté au spectacle?
C'est un univers très différent, Natacha et moi, et il se complète bien, et puis on s'amuse bien, donc ça je trouve que c'est très important, puis il y a une très très belle sensibilité de sa part.
C'est ça, c'est en général assez poétique, non? Elle amène de la poésie partout où elle passe.
Oui, c'est vrai, absolument.
Merci beaucoup. Mais moi, je suis là aussi surtout pour accompagner un homme que j'admire depuis 30 ans, c'est Jean-Luc. Donc, je suis là vraiment pour faire briller le plus possible son humour, sa drame, sa tragédie. Et je pense que c'est vrai que le sens d'humour que Jean-Luc a, c'est le sens d'humour que je l'aime beaucoup. Et j'adore tout ce spectacle, donc voilà, on se complète, mais en même temps, je le suis. C'est lui qui est là devant, avec ses allumettes, ses briques, son petit lumière, ses lucioles. Et moi, j'essaye ce que je peux pour donner quelque chose de moi.
Donc, dans ce spectacle, il n'y a pas de marionnette, mais c'est lui la marionnette, en fait.
Voilà.
Oui, tout à fait.
C'est lui qui se manipule et qui nous manipule et nous, on le manipule tous.
C'est ça. Si vous avez une question, là, est-ce que ça vous donne envie?
Bah, à fond. On viendra.
Alors, franchement, il y a le thème, il y a Jean-Luc et puis Natacha. Alors, ça fait trois choses qui donnent vraiment très, très envie. Donc, au Théâtre Jean Villard, à partir de demain jusqu'au 26 janvier, au Bloquerie, c'est ça?
Oui, c'est ça.
Et si c'est complet, parce que c'est complet, n'hésitez pas à mettre sur la liste d'attente parce que les premières personnes passent toujours. Donc ne se découragez pas, il faut venir quand même si c'est complet.
Oui, bonne idée.
Et j'ai vu que si par hasard on n'arrive vraiment pas à attraper le Villard, vous continuez à le transporter dans plusieurs autres endroits de la Belgique. Mais pas
oui,
à Bruxelles.
Fin janvier, on le joue à Oui, on le joue aussi à Moucron, on le joue à Marche, et puis la saison prochaine aussi.
Magnifique.
Oui, à Dinan.
À Dinan, hein, c'est ça, oui. Voilà, on peut trouver ça sur le site. Mais moi, j'ai simplement tapé au bout des planches et puis je suis arrivée sur toutes les dates. Donc, c'est faisable. Mais on ne se décourage pas. On essaye donc le Jean Villard. Et puis moi, je vous dis à demain. Alors, je vous vois demain.
D'accord.
Allez, amusez-vous
et
bien.
Plein de choses à vous.
Merci beaucoup.
Oui, voilà. Bon vent, vos passions.
Bonne soirée de répétition. Et donc, vous avez choisi une musique qui fait partie, je crois, de votre spectacle?
Non, pas du spectacle, mais c'est quelqu'un avec qui on a envie de travailler. Ça ne s'est pas présenté ici. Mais voilà, c'est quelqu'un qu'on aime et on a envie que vous découvriez son travail.
Et qui s'appelle? Et qui s'appelle?
Alice Eborn, c'est une compositrice contemporaine belge qui a beaucoup, beaucoup apporté maintenant de nouveau dans la musique.
Allez, on l'écoute avec plaisir et bonne fin de répétition.
Merci.
Merci beaucoup.
Au revoir. Thank you.
Voilà, c'était très joli, une belle découverte, très planant. Est-ce qu'on a encore le nom pour rappeler? Je ne me rappelle plus. Alors, j'essaye de lire. Mouvement, deuxième saison. Deux saisons. Et puis, on va parler tout de suite alors de Perfect Day. Un titre positif pour, pour une pièce positive.
C'est complexe. Enfin, il y a du positif et du, et voilà, du plus dur. Mais je pense qu'en tout cas, la personne qui parle, l'héroïne, elle a une sacrée Marie, elle a une sacrée énergie de vie. Donc, elle traverse.
D'accord. Et donc, c'est une femme. Ça ne me concerne pas du tout. Hein. C'est une femme de plus de 60 ans et de ses histoires sentimentales.
Alors, il n'y a pas que ça, il y a le fait que, oui, effectivement, elle ne commence pas tout de suite à parler du sentimental. D'accord. Elle parle beaucoup d'autres choses, qui est du rapport de sa mère qui est en fin de vie, de sa fille qui a un nouveau compagnon qui a son âge, de son ex-mari, enfin, qui au début de la pièce n'est pas son ex-mari, est encore son mari, même s'ils vivent séparés depuis des années. Et puis, petit à petit, on va se rendre compte qu'elle a un nouveau collègue.
Voilà. C'est ça. Et là, ça devient joyeux. Et là, ça devient...
Oui. Enfin, je pense que... Oui, le reste... Enfin, son regard est quand même fort amusé sur les choses. C'est une femme qui a toujours vécu au service des autres et qui s'est toujours un peu oubliée. Et puis, il y a ce nouveau collègue, Alexis.
Qu'est-ce qu'elle fait comme travail?
Alors, elle est née dans une...
Très particulière.
Dans une... C'est pas une grande maison de parfumerie. C'est une moyenne maison. Et en fait, elle
née,
a 64 ans.
Née, donc, NZ, hein. Elle n'est pas née dans une parfumerie. Oui. Elle est...
Oui. Elle est née. Elle travaille, en fait, à la confection d'un parfum et d'un dernier parfum avant de partir à la retraite.
Ah, ça rejoint un petit peu Jean-Luc.
Voilà. Pour une femme comme elle. Et donc, voilà.
Donc, on lui demande de créer un parfum pour une femme de plus de 60 ans, c'est ça?
Voilà, c'est ça. Et donc, comme elle va bientôt partir à la retraite, elle demande... Enfin, voilà, elle va avoir quelqu'un qui va reprendre le travail une fois qu'elle ne sera plus là. Et c'est un jeune collègue de 40 ans.
Ça va?
Oui, ça, c'est super.
Alors, c'est une pièce qui a déjà tourné.
Oui, qui a été créée l'année dernière, au mois de novembre, qui a été créée d'ailleurs dans la salle Bloquerie de Jean Villard. Donc,
à Port-Bonheur.
Voilà, oui. Et qui a pas mal tourné déjà. Et qui, voilà.
Et qui a eu son succès. Qui
oui,
a
parce qu'Hélène a reçu le prix
d'interprétation.
Oui,
pour ce... voilà, pour... Alors j'étais très étonnée que vous ne mettiez pas en scène, vous-même.
En fait, Hélène me l'avait demandé. Enfin, un moment, elle a dit « Est-ce que tu ne le ferais pas ?» Et je trouve que ce n'est pas toujours facile quand on écrit le texte parce qu'on a souvent tendance à dire ce qu'on a dit dans le texte, dans la mise en scène. Et je trouvais intéressant qu'il y ait un autre regard.
Intéressant, mais est-ce que c'est... Comment dire? C'est risqué aussi, non?
Ah oui, c'est clair.
On donne son bébé à quelqu'un d'autre et puis il en fait
et
autre
chose. Et à la fois, c'est chouette. Enfin, le théâtre, c'est des affaires d'équipe.
Ah, oui,
donc,
oui.
C'est gai que quelqu'un arrive et...
Et qui a choisi alors la...
Alors, c'est Hélène qui a choisi Lara Keulemans. Et je trouve que c'est un excellent choix.
Bon, une femme, en tout cas.
Une femme. Enfin, encore d'une autre génération, une jeune femme. Et donc, ça, c'était super.
Parce que Christine Delmotte-Weber, vous vous mettez en scène les pièces que vous écrivez, généralement.
Oui, c'est ça. Mais oui, c'est vrai. J'aime bien, dans l'écriture des pièces, écrire en sachant que je me mettrai en scène. Mais bon, voilà.
Oui, après, moi, je crois que c'est des questions de comment on se sent à l'aise.
Tout à fait. Voilà. Toutes les formules sont possibles. Et moi, je serais personnellement très flattée si un jour quelqu'un d'autre mettait en scène. Mais Geneviève, ça lui arrive couramment. Quand même.
Oui, ça m'arrive de temps en temps. Après, c'est oui.
Avec Geneviève, tout est possible. Parfois, elle le joue, parfois, elle ne le joue pas. Voilà, parfois, elle le met en scène. Parfois, c'est quelqu'un d'autre qui joue.
Oui,
enfin,
c'est ça.
Et tout est possible.
J'imagine que ce qu'on dit à un moment peut bouger. Au bout de 2-3 ans, on aura envie d'accompagner jusqu'au bout. Parce que c'est vrai qu'il y a une histoire de lâcher, quoi. Et je trouve que...
Et aussi, peut-être une histoire de finitude. C'est-à-dire que... Quand vous mettez en scène, vous pouvez encore changer le texte, c'est votre
exactement,
texte.
Exactement.
C'est-à-dire que quand on ne le met pas en scène, celle qui met en scène doit respecter à 100%.
Oui, alors en même temps, il y a des grandes libertés toujours, parce que le travail de mise en scène, c'est Hitchcock qui disait, pour être complètement fidèle, il faut être infidèle. Pour être fidèle à l'esprit, il faut s'affranchir de la lettre, quoi. Et donc, et je trouve qu'en tout cas, dans Perfect Day, elles ont pris certaines libertés. Et c'était chouette de venir voir et de se dire, tiens,
ils le voient
ce
comme
spectacle
ça.
Est un autre. Voilà.
Qu'est-ce que ça vous dit à vous deux, là, les jeunes, comme j'appelle d'aujourd'hui?
Mais oui, mais je trouve ça très chouette ce que tu dis par rapport au lâcher prise. Et je me demande, t'as suivi la création ou tu venais parfois
un
voir
petit peu,
des
je
étapes?
Je suis pas venue beaucoup voir, je pense. Alors, par exemple, il y a d'autres spectacles où on m'a plus demandé de venir. Moi, je trouve qu'il faut être là. Enfin, faut pas jouer la belle-mère. Faut être là. Enfin, c'est pas gentil pour les belles-mères.
Le cliché de la belle-mère.
Voilà. Je suis moi-même belle-mère.
Voilà, c'est voilà, c'est ça.
Mais moi aussi.
Faut arrêter de se tirer des balles dans le pied.
Oui, c'est vrai qu'on véhicule
ça. Mais en tout cas, je trouve qu'à un moment où on dit oui à une équipe qui s'empare, on dit oui.
Oui.
Voilà.
Et puis, elles n'ont pas demandé. En fait, si elles avaient demandé...
Des petites choses, des petits coups de téléphone, voilà. Des questions, des moments, et puis voilà.
Puis on lâche.
Pouvoir, voilà.
Mais on est content du résultat, parce qu'il a un succès.
Oui,
fou.
Donc ça, c'est chouette, parce que...
Et pourquoi il a du succès, vous pensez? C'est difficile de voir pourquoi, tout d'un coup, une pièce a comme ça ce succès. Est-ce que c'est le thème? Bon, l'interprétation est formidable,
oui,
puisqu'elle a eu le prix Maeterlinck.
Oui, elle est fantastique. Peut-être que ça parle... Enfin, il y a des femmes qui sont venues après me dire... Enfin, bon, le pitch, c'est est-ce qu'on est périmé, en fait, à 65 ans? Est-ce qu'on est périmé?
Pas seulement les actrices, aussi...
On a tous un moment, cette question, puisqu'il y a tous les âges de la vie, et si on arrive à un nouvel âge, on en abandonne un autre. Donc, toute cette question de péremption, même à 15 ans, on la vit même à 30 ans, même... Et évidemment, la réponse du personnage principal, Marie, c'est de dire que tant qu'il y a... de l'appétit et du plaisir, ben, on n'est pas périmé.
Mais ça, c'est une fois qu'elle rencontre ce jeune homme. Mais est-ce qu'avant, elle était déjà dans cet esprit-là?
Non, je ne pense pas. Et d'ailleurs, il lui dit « Les murs sont dans la tête, Marie ».
Oui. Et donc, pourquoi avoir choisi ce thème?
Alors, pourquoi avoir
et
choisi ce
thème?
Il ne faut pas
me dire « J'étais en vacances et on était
osés ». Non. C'est parce qu'en fait, j'ai joué La solitude du mammouth. Et un soir, Hélène est venue voir La solitude du mammouth.
Donc, La solitude du mammouth racontait une femme trompée. Enfin,
oui,
Médée. Et qui se venge.
Oui, voilà, Médée.
Pas avec des lettres, mais le genre.
Ce genre-là, mine de rien.
Hein?
Oui. Avec, en tout cas, les théories de Václavic. Mais Hélène m'a dit, moi, j'aimerais bien que tu écrives un texte pour moi et pour parler de l'âge de la femme de 65 ans, pour dire ce que c'est. Et de fois en fois, on s'est vus, c'était pas très clair. Et puis à un moment, j'ai dit, mais c'est toujours important pour toi. Et ça l'était. Et voilà. Et on a parlé, on s'est vus 2-3 fois pour parler de choses qui étaient importantes pour elle. Et après, j'ai écrit, mais c'était clair que ça se voulait de la fiction. Donc il fallait que je prenne à la fois des éléments, respirer un parfum ou une musique qui lui était importante à elle. Et pour pouvoir... lui offrir un personnage qui n'était pas elle.
Donc c'est une quasi-commande.
Oui, c'est une quasi-commande avec beaucoup de liberté pour moi aussi.
C'est ça. Ça vous est déjà arrivé
Non, commande jamais.
Une sorte de commande. Ou d'écrire pour quelqu'un en pensant à quelqu'un.
À la fois, tu écris en pensant à quelqu'un, donc tu as des...
Autant qu'à l'exercice.
Non, même pas. Non, j'écris vraiment, moi, en pensant à des thématiques précises que j'ai envie de développer de mon côté. Ça, c'est vraiment mon truc. Donc, j'ai fait des commandes dans des adaptations, par contre. Des adaptations de romans, ça, il y a eu des commandes, mais pas dans des écritures propres. Mmh. Voilà. Mais pourquoi pas, je trouve que c'est formidable que quelqu'un comme Hélène vienne commander. Ça, c'est...
Ah oui. Ah oui. On dit oui,
tout à fait, mais non.
Enfin, il faut être inspiré, il faut que le thème colle, etc.
C'est une très belle thématique.
Oui, mais ça, c'est des petits... Enfin, ça, c'est des petits miracles. Enfin, ça... C'était pas clair qu'avec les ingrédients, ça marcherait. Comme quand j'ai été livrer le texte à Hélène, c'était pas clair qu'elle me dise « Ok, je marche ». Enfin,
tout me plaît.
Oui, c'est ça. Et donc, ça a été vraiment une chance qu'elle embrasse le texte comme ça.
En tout cas, le texte doit parler à beaucoup de... Et d'ailleurs, dans le public, je ne sais pas s'il y a des femmes, des hommes...
Il y a des hommes aussi, oui.
C'est ça. Parce que le public du théâtre, enfin, en moyenne, alors, je ne sais pas, vous diriez que c'est quoi le public... les jeunes, là, vous diriez que c'est quoi le public
Moi, je pense que c'est lié au théâtre, vraiment.
Au lieu?
Oui, au lieu.
Donc aux abonnés.
Aux abonnés, oui, ça, voilà. Oui. Je pense que oui, il y a des théâtres ou des centres culturels qui ont des abonnés... au-delà de 40 ans, et puis ça dépend du spectacle, de la thématique qui peut aussi toucher peut-être un peu plus des plus jeunes, oui.
En tout cas, il y a un travail à faire toujours auprès du public, c'est pas donné, Voilà.
Le fidéliser, essayer que, de justement...
Et d'ouvrir, quoi. Mm-hmm.
Parce qu'en fait, statistiquement, en tout cas, quand Avignon, par exemple, ils font la moyenne des spectateurs, c'est quand même des femmes de plus de 45 ans, souvent des professeurs de lettres. Enfin voilà, ça, c'est le type même.
Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que, par exemple, nous, on en parle en spectacle, même dans les écoles théâtrales, il y a une majorité de femmes par rapport aux garçons. On est une vingtaine pour une centaine de femmes.
Et pourtant, dans les castings,
ça se répercute également. Et les rôles, inversement,
c'est ça, c'est l'inverse.
Les rôles masculins, oui.
Mm-hmm. À ce jour, quoique tu vois, les autrices actuelles, contemporaines, elles écrivent pour des femmes.
Oui, bon, ça change. Bon,
oui, ça bouge. C'est vrai que ça bouge fort.
Déjà, il y a des autrices, il y a beaucoup d'autrices femmes pour le théâtre.
Et je me demande s'il n'y a pas plus d'autrices que d'auteurs. Pour le théâtre, je me demande.
Il y en a. Et dans les écoles de théâtre, on fait attention à la parité. Mais je dirais, dans les écoles de théâtre, en tout cas au Conservatoire de Bruxelles, on fait aussi attention à la parité inversée, c'est-à-dire de faire en sorte qu'il y ait quand même un peu moitié-moitié, quoi.
Ouais.
Pour nous, c'est important, parce qu'autrement...
Moitié-moitié d'élèves ?
Oui, qu'on fasse attention à ce qui...
Mais qu'est-ce qu'on peut faire s'il y a plus de femmes qui se présentent ? On peut pas...
C'est des examens d'entrée. Et dans les examens d'entrée, je dirais, c'est de façon totalement... C'est des concours, c'est subjectif.
Donc si les femmes sont mieux, on prendrait que des femmes, à la
limite. Oui, mais alors du coup, mieux, ça veut pas dire... On essaie de créer des groupes qui peuvent travailler ensemble, homogènes, qui peuvent travailler. Donc pour ça, il faut quand même une certaine partie.
Le théâtre doit refléter la vie.
Discrimination positive. Dans l'autre sens.
Oui, et puis ça veut dire que tout le cursus, ce groupe-là va être obligé de travailler aussi toujours des textes peut-être alors qui sera limité.
Féminin, donc c'est ça, tout à fait.
Ou pas spécialement féminin, ça peut être dans l'autre sens aussi. Non, je pense que c'est effectivement important d'avoir tous les âges aussi, avoir des cultures différentes.
Alors, surtout pour du classique, parce qu'on va dire que dans le théâtre contemporain, dans lequel il n'y a plus de sous, il y a peu de personnages, parce que c'est comme ça.
C'est pour... Mais nécessité fait loi.
Oui, c'est ça.
On s'est adapté.
Oui, c'est ça. Donc, voilà. Oui. Dans les écoles, on a besoin de tout parce que dans les classiques, il y a encore énormément de personnages. Et de
oui, c'est ça. Et puis, je pense que pour moi, c'est important qu'on essaie de refléter dans nos écoles de théâtre la réalité telle qu'elle est. Et la réalité, il y a quand même 50-50. Bah, parfois, c'est 51-49, mais c'est la même chose. Et donc, c'est important aussi que ça se reflète. Et que c'était, alors, malheureusement, ce n'était pas le cas avant dans les textes classiques où le nombre de rôles d'hommes était beaucoup plus important. Nous, les autrices contemporaines, on essaie vraiment de faire changer les choses par rapport à ça, de donner des beaux rôles à des femmes.
Oui, et puis il y a aussi, au niveau dramaturgique, les choses ont changé. Ça veut dire qu'il y a des textes réservés aux hommes qui sont interprétés par des femmes. Enfin, il y a beaucoup... Vraiment, notre époque a vraiment interrogé la question du genre et l'interroge encore. Et je trouve que ça, c'est fantastique.
Oui.
Absolument. Et donc, est-ce que cette musique Perfect Day a inspiré le titre de...
Oui. Mais je vous laisse venir voir parce que...
Bien sûr.
Voilà. Pour ne pas tout vous dévoiler.
Voilà, en tout cas, on l'écoute.
Merci.
Et on voit combien ça nous inspire aussi.
Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Just a perfect day. You made me forget myself.
I thought I was someone else, someone good. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh, such a perfect day. You just keep me hanging on. You just keep me hanging on.
Ah, c'était beau, mais on va, voilà. On va laisser un peu de temps à Lionel Liégeois qui a donc écrit le texte et Aurélie Frenet qui va le jouer, mais avec...
Avec Benoît Janssens. C'est ça. On salue, j'espère qu'il nous écoute. Hein.
Et vous serez deux, et vous serez deux pour parler de vos métiers. Alors on va voir déjà si justement l'homme et la femme c'est la même chose comme métier.
Oui. Oui, c'est vrai que bah, exactement ce qu'on disait juste avant, exactement. On en parle un peu dans la pièce, oui. Mais de dire que... Quand on sort d'une école, il y a un peu plus de comédiennes et un peu moins de rôle féminin. En tout cas, moi, ça fait un peu plus de 10 ans que je fais ce métier. C'est vrai qu'il y a une évolution aujourd'hui et qu'on fait beaucoup plus attention à ça. Mais au début, un peu moins. Donc, en tant que femme, on est contente que ça évolue.
Alors, on va commencer. Alors, c'était pas une commande, Lionel? Ou bien, comment est venu le début de l'histoire?
C'est des situations complètement absurdes, cocasses par rapport à l'administratif, à une réalité, en fait, à laquelle on n'est pas préparé lorsqu'on fait, justement, le conservatoire ou des choses comme ça, où on se rend compte... que ça ne rend, les paillettes, le rêve qu'il y a autour du métier, malheureusement, il y a aussi une dure réalité derrière. Et voilà, il y a des situations difficiles à vivre. Et
ça moi, veut dire pas... que vous avez fait une école d'acteur aussi ?
Oui, je suis comédien de formation.
Ah, d'accord.
C'est la première fois que j'écris. J'avais déjà fait des écritures collectives, mais c'était la première fois où vraiment
Dans quelle école alors vous étiez ?
J'étais au conservatoire de Mons.
Mons ? Christine, elle donne cours au conservatoire de Bruxelles.
Et... Moi, j'ai fait l'IAD.
D'accord.
Voilà, donc on a un peu toutes les écoles. Ouais, c'est chouette, ça. Ouais.
Et avec Aurélie, on s'est rencontrés lors des auditions. Et on a tout de suite sympathisé. Et moi, lorsque j'ai écrit le spectacle, tout de suite, j'ai pensé à Aurélie. C'est marrant parce que j'écoutais évidemment ce qu'il se disait. Et moi, je visualisais Aurélie. Je voulais absolument que ce soit elle.
Heureusement, elle a dit oui. Ouf.
Oui, heureusement. Oui, elle a été aussi une des premières à lire, forcément. Mais par contre, je ne voulais pas jouer dedans. Ça, c'était
Claire aussi.
Question. Là, je voulais vraiment...
Mettre en scène.
Mais je voulais... Oui, j'avais très envie de le mettre en scène. J'entendais le mot bêlé pour parler de son texte. C'est vraiment l'image que j'en ai.
Vous n'aviez pas envie de le donner. Mais ce n'est pas son premier. Alors peut-être que le premier, on ne veut pas le donner. Peut-être qu'après... On s'habitue, on a d'autres envies, des curiosités différentes.
Oui, sans doute, mais...
Mais si on commençait au début, parce que pour nous qui n'avons pas fait d'école de comédien, pourquoi on rentre dans une école? Pourquoi on veut faire ce métier au départ, en fait? Qu'est-ce qu'il y a dans la tête?
Je pense que ça dépend de chacun. Moi, je sais que c'était... Alors, on le dit d'ailleurs aussi dans le spectacle, hein, parce qu'on fait vraiment le...
Toute l'histoire,
du temps, on essaye de partir de l'envie aux écoles, au premier casting, et puis à l'administratif.
Alors, pour vous, par exemple, qu'est-ce qui a été le déclencheur? Pourquoi
Moi, j'ai eu la chance d'avoir un professeur formidable que vous connaissez, Benoît van der Slaar. C'était mon professeur à l'académie à Dinan. Et il m'a donné le goût du théâtre, tout simplement. Je ne me prédestinais pas à ça. Mais à force d'avoir des cours avec lui, il m'a donné ma chance aussi dans un spectacle amateur à l'époque.
Et le goût du théâtre pour les mots, pour le jeu, c'est quoi le moment de bonheur?
Moi, c'est le public.
Les applaudissements, les réactions.
La connexion, le partage et ce que ça renvoie. Je dis toujours, c'est comme les montagnes russes, on est dedans, on se demande qu'est-ce qu'on fait là, et puis lorsque c'est fini, on a envie que ça recommence. C'est pareil, quoi. Lorsqu'on met un pied sur scène, avant, on n'a pas envie, et puis après, on dit vivement demain.
Et Aurélie, alors, c'était quoi le départ? Pourquoi des cours de...
C'est marrant, c'est un peu pareil, en fait. Moi, j'ai commencé assez petite et j'habitais tout près des baladins du miroir, en fait. Et donc, enfant, je me promenais dans les roulottes et tout ça. Et puis, donc, j'ai participé à des ateliers pour enfants, là, aux baladins du miroir. Et je me souviens de la première pièce où je devais rentrer. Je faisais une vieille tante qui arrivait avec une tarte aux myrtilles. Et j'ai eu peur, c'était incroyable cette peur. Et en même temps, il y avait mon professeur qui disait vas-y, vas-y, vas-y. Et je sais que quand je suis rentrée, c'était génial. Il y avait tout ce public, je le vois. Enfin voilà, j'étais très petite. Et je sais qu'après, j'ai dit c'est ça que je veux faire. Je l'ai toujours écrit dans tous les cahiers des amis où on dit qu'est-ce que tu veux faire plus tard. J'ai toujours dit comédienne. C'était ce pouvoir, cette puissance de faire rire les gens, d'émouvoir, d'être là. Et puis après, de partager, de discuter, tout ça. Je trouve qu'il y a quelque chose de, je sais pas, une adrénaline qui peut être un peu similaire à, je sais pas, des sportifs ou quoi, mais quelque chose de très, très puissant qui arrive.
Alors, on saute une étape, donc vous êtes au cours.
Oui.
Vos parents ont dit oui,
C'est déjà super.
Hein, c'est une étape. Hein.
Oui, c'est vrai.
Le coming out comédienne professionnelle, bon, c'est fait. Vous y êtes. Et alors, vous arrivez presque à la fin. Et dans votre tête, c'est quoi le métier d'actrice? Combien de temps on joue par an? Dans votre tête, c'était quoi?
Moi, c'est ce que dans la pièce j'ai écrit, c'est qu'on passe d'une école où pendant 4 ans, on fait un projet tous les 3 mois avec des intervenants différents. Et du jour au lendemain, on ne sait pas. On ne peut pas attendre. Il faut commencer à créer aussi. Il y a des castings, mais on ne sait jamais comment ça va se dérouler. Donc oui, c'est un peu la douche froide. Alors pour certains, ça se passe très bien, et tant mieux. Il y a des contrats qui arrivent, il y a des spectacles. Mais parfois, il faut gratter, il faut un peu essayer de créer soi-même, de se faire s'accompagner, etc. Et ça prend du temps.
Et Christine, est-ce qu'elle apprend à ses élèves comment c'est la vraie vie d'un comédien ?
La vraie vie, je dirais, au niveau des étudiants, des étudiantes, ils sont un petit peu confrontés quand ils entendent des avis comme ça de gens qui sont là après. Nous, on essaie de faire en sorte qu'ils aient le plus souvent possible au théâtre, voir des choses. Ça, c'est le plus important. Donc, qu'ils soient déjà
Une sorte de culture.
Oui, qu'ils baignent dans ce milieu-là, qu'ils aient voir le plus de théâtre possible, le plus de spectacles possible, qu'ils communiquent le plus possible avec le milieu professionnel. C'est pas toujours le cas. Voilà. Mais parfois, oui, parfois. Et donc, on sent qu'il y a un appétit terrible et que ça va. Que ça va passer et que ça va continuer, puis d'autres fois. Mais on est, comme professeur, on est toujours totalement surpris de la manière dont les gens conduisent leur carrière. Franchement, on ne sait pas dire. Moi, ça fait très longtemps que je donne cours. C'est chaque fois totalement mystérieux.
Ah oui ?
Ça dépend de tellement de paramètres.
On va dire que ce n'est pas toujours les meilleurs qui jouent le plus ?
D'abord, c'est difficile de dire qui c'est les meilleurs parce que je ne dis pas qu'il y a 20, 30 ans, je ne dis pas celui-là est mieux qu'un autre. Mais franchement, maintenant, j'ai 60 ans aussi, je trouve qu'il y a. Il y a tellement dans chaque personne une potentialité comme ça, avec
une adéquation, un rôle quelque
avec
part.
Avec des moments possibles où on se dit, mais là, ça pourrait être formidable dans tel cas. Ouais. Que c'est très mystérieux. Il n'y a pas de règles, il n'y a pas de. Il y a surtout le désir. Moi, je vois surtout qu'à un moment donné, quand la personne le désire vraiment, le désir fait beaucoup. Quoi.
Moi, je crois que vraiment, il y avait ce côté persévérance qui est hyper important dans ce métier. Et voilà, de continuer d'y croire, d'avoir... Alors, c'est pas toujours facile, hein, y a des jours de doute, mais je crois qu'il y a vraiment cette qualité-là qui est importante, quoi, de persévérer.
Ce que j'entends souvent chez des jeunes, c'est de dire, je dois créer mon propre spectacle, parce que si je dois attendre qu'on crée pour moi, j'aurai peut-être 50 ans. Oui, c'est ça. Mm-hmm.
Oui, oui. Et c'est super, en fait, de passer par là. Après, c'est vrai qu'on passe par tout un... Pour créer un spectacle, il y a, je veux dire, tout l'aspect créatif d'écriture, de mise en scène, de jeu. Mais il y a aussi tout le dédale dans lequel nous on parle, de faire un dossier, de la communication, de la diffusion. Tout ce travail-là qui, parfois, est à charge du comédien aussi. Et donc, c'est vrai que ça va prendre aussi un certain temps dans
et
notre...
Et de trouver un théâtre agenda. Qui vous accueille ça.
Oui, oui, oui.
Oui, parce qu'en fait, je ne sais pas combien d'élèves sortent des écoles. Et en plus, tout le monde ne fait pas les écoles. Mais il y en a... Et combien sortent... Enfin, du comédien ne joue plus. Donc,
Oui, c'est vrai. Après, il y en a qui se dirigent aussi vers des métiers dans lesquels ils utilisent leurs études de comédien pour leur métier. Il y en a beaucoup qui deviennent professeurs et c'est formidable et qui montrent plein de choses. Donc, ça peut être comme d'autres études où, en fait, on ne fait pas forcément le métier pour
et
lequel on a étudié.
Peut-être
mais
qu'il y a
on
aussi, au plus, on élargit sa palette. Il y en a qui chantent, il y en a qui dansent, il y en a qui jouent dans plusieurs langues. Enfin, il y a un petit peu de tout.
J'ai l'impression, en tout cas, qu'on demande maintenant, en tout cas, à ce que les comédiens soient polyvalents, parlent plusieurs langues, jouent des instruments, effectivement, la danse... la marionnette, on en parlait tout à l'heure. Oui, c'est tous des atouts. Maintenant, pour un comédien, c'est très important.
C'est ça, parce que il me semble que le spectacle vivant est devenu plurifacette.
Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais comme on le disait au début, le désir qu'a quelqu'un, je dirais, de faire ce métier est tellement
essentiel.
Essentiel et créer la route, quoi. Créer la route et voilà. Et donc, parfois, on voit des gens qui, après 10 ans, reviennent, ils font des choses extraordinaires. Mmh. Parfois, on voit des gens qui, après 3-4 ans, s'éteignent, n'ont plus le désir, ont donné... Le désir est parti.
Oui.
Et puis, il y a des gens où ça dure 30 ans, donc il y a des croyances incroyables, où tu sens qu'il y a 30 ans de désir forcené.
Et je suis d'accord avec toi, il y a ce côté vraiment de feu sacré, enfin de flamme qui est toujours là. Et parfois, chez certains, elle n'est plus là, mais alors ils font autre chose et ils sont contents de faire autre chose. Je crois qu'il y a un côté où on sait que c'est notre mission et que c'est ça qu'on veut faire à tout prix. Et du coup, on va rencontrer des gens, créer des spectacles.
Alors, quelle est l'histoire d'un spectacle ? Alors, imaginons, vous écrivez un spectacle dans votre coin et puis voilà, il est fait. Alors, il est écrit pour, en pensant à Aurélie, donc on lui fait lire la première fois, la première version.
Je pense pendant le Covid ou en tout cas juste après le Covid, donc on était en plus dans une période où on ne savait pas très bien, mais on n'avait que ça à faire, écrire, penser, réfléchir à des spectacles.
On a beaucoup créé pendant le confinement, hein. C'est vrai que c'est une période...
Et puis donc on va voir les contacts. Moi j'ai de la chance de travailler avec une compagnie qui s'appelle l'Isola, une compagnie namuroise. On va voir des centres culturels avec qui on a des affinités, comme le centre culturel de Dinan, et on voit avec eux, je peux avoir une salle, quelle période. Ok, Aurélie, t'es disponible. J'ai pensé aussi à Benoît, on va l'appeler. On essaie de mettre toutes ces énergies ensemble, d'avoir de l'argent. Donc parfois, ça peut passer par une demande de bourse, que ce soit la CAPT ou par d'autres biais. Mais généralement, ici, en tout cas, on l'a quasi fait sur fonds propres, la création, parce que... Si on doit les attendre, alors on ne crée plus.
Bon, alors on va répéter les dates, hein, parce qu'il faut que l'argent rentre maintenant. Donc, moi, je vous ai noté pour le 22 janvier, qui est un lundi au Fou Rire, une salle qu'on adore.
Oui. Voilà. On va la découvrir, on a hâte.
Vous m'en direz des nouvelles.
Chouette.
D'accord. Et ensuite, vous avez eu l'opportunité d'avoir
des... Oui, on va ici à Wans cette semaine, au Centre culturel de Wans.
Ce jeudi 11 janvier, on est à Wans. Et puis après...
On enchaîne avec le Théâtre Jardin Passion. On y va.
Ah oui, on en parle souvent. C'est un ami, c'est ça. Mais tout le monde en parle. Il faut que j'aille un jour voir ça.
Ah, ça, c'est à découvrir. C'est vraiment une salle.
Parce que, justement, ils donnent la possibilité à des découvertes.
Oui, c'est ça. Ils ont... L'idée du spectacle, c'était vraiment une ébauche. Tout de suite, ils ont accroché, ils ont aussi marqué un intérêt. Et ils ont un suivi, ils ont une politique culturelle qui est incroyable. Vraiment, c'est un chouette lieu et des gens formidables.
Très bien.
Et en plus, on ouvre une date en plus grâce à eux. Pardon.
Quelque chose ? Non, rien de
après,
tout.
Et après, nous, on enchaîne encore dans d'autres centres culturels. Donc, je sais qu'il y a... Warem, Anu, Sambreville, Philippeville. Donc c'est chouette, on va faire tout un tour de Belgique.
D'accord, et on peut voir les dates, tout ça, alors ?
Ah, et le Samoal, à Bruxelles, exactement, le Samoal.
Le point d'orgue de cette saison, ça sera le Théâtre La Valette à Ydre.
Ah, ouais,
là,
voilà.
On va pouvoir jouer une longue série au mois de mars.
Eh bien, c'est là où donc Perfect Day se joue pour le
moment. Ah, d'ailleurs. Pour le moment.
C'est formidable. Alors, donc, on va écouter de la musique après,
pour les dates, c'est sur Live Diffusion.
Ah oui, d'accord.
C'est notre chargé de diffusion, donc c'est livediffusion.com et il y a toutes les dates.
Parfait. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on écoute comme musique ?
Alors, on a choisi une chanson de Alex Devant les Cimes. En fait, ça a été assez facile de trouver parce qu'en fait, c'est mon compagnon qui, lui, travaille dans la musique. Et on a même créé un spectacle d'art de rue ensemble avec Lionel. Donc c'est vraiment un ami à Lionel aussi. Et en fait, c'est donc un artiste belge. Et sa chanson s'appelle « Marche et rêve ». Elle est sortie il y a peu de temps. Il vient de sortir son premier album. Et elle parle justement de ça, ce rêve à tout prix où on va au bout de son rêve, de sa passion, malgré parfois... Des gens qui ne nous suivent pas, peut-être pas au départ.
Comme les musiciens, c'est pareil, oui.
Oui, on trouvait que c'était assez adapté par rapport à la pièce.
Ça a du sens, on parle du métier artiste en Belgique. Voilà, il y a un jeune artiste.
Allez, on va essayer de l'écouter jusqu'au bout.
Il n'est pas trop tard pour sourire. Dire ok, je me suis planté. J'ai toujours eu du mal à choisir. Si compliqué de m'écouter. De belles excuses en soupir. Pour toutes les fois où j'ai reporté. Peut-être que je devais encore grandir. Peut-être encore jamais assez. Alors je marchais là. Je voudrais le vivre avec toi. Qu'enfin tu me comprennes, me soutiens. à me taire et envier ceux qui ont tenté en vouloir à la terre entière. Mais à quoi ça sert? J'ai rien gagné pour les autres. J'ai toujours su quoi faire, de grandes leçons à donner, mais que j'avais l'air con caché derrière, tellement peur d'être jugé. Alors je marchais rêve, j'y arriverai, je crois. Ces frissons qui m'entraînent m'emmènent, je ne résiste pas. Être heureux, être fier de soi, pouvoir s'accepter, car à trop vouloir plaire, parfois on oublie de s'aimer. Pas si simple à faire, encore du courage, ne pas renoncer. Un coup d'éclat libère, juste oser un pas de côté. Alors je marche là.
Et on s'est déjà rencontrés, on a fait des castings et j'ai pas été pris. Mais c'est comme ça, il y en a combien, on en prend combien sur 10 au casting?
Ça dépend des pièces, effectivement, mais on se disait avec Aurélie qu'on avait travaillé ensemble sur Rhinocéros de Ionesco.
Ah bah oui,
ça date un peu, mais c'est avec Pietro Pizzuti, c'est un beau souvenir.
Ah bah,
on a bien
aussi,
demandé,
on l'a dit, ma femme, bon, tout ça. Alors, voilà. On répète un peu les dates.
Alors,
donc,
ceci n'est pas un rêve, c'est donc à la Comédie Claude Voltaire, c'est du 17 janvier au 4 février, donc, avec Stéphanie Blanchou, Stéphanie Van Vive et Anna Rodriguez.
Voilà, ah, c'est du beau monde. Hein. Alors, pour vous, donc, on va voir sur le site, mais on va en tout cas d'abord chez notre amie Cathy au Fou Rire le 22 janvier.
22 janvier à 20h, 20h.
Voilà, voilà, et je vous rappelle donc, Perfect Day, c'est au Théâtre La Valette, du 11 au 28 janvier. Et puis, donc, n'oubliez pas, on a eu en ligne aussi Jean-Luc Pirot, donc au bout des planches, même s'il dit que c'est complet, mais qu'on peut quand même toujours venir, voilà, du 9 au 26 janvier, au Théâtre Jean Vidlard, enfin, au Bloquerie. Et donc, n'oubliez pas, le 1er février, au Centre culturel Ducle, inconnu à cette adresse. Moi qui vais voir beaucoup de pièces, je peux vous dire que cette pièce est extraordinaire. En plus, voilà, vous faites une BA pour la radio. En plus, on se voit tous ensemble. On boit un verre après. Voilà, je vous attends le 1er février. Et puis, ben, sinon, je vous attends la semaine prochaine. Non, dans 15 jours.